À lundi. Stop,
c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Quand on vous parle de podcast, beaucoup d'entre vous pensent qu'il s'agit d'émissions à réécouter après coup. Bah c'est vrai aussi, mais sous ce même nom et avec ce même mot, on désigne aujourd'hui sur ce marché de l'écoute en ligne mille et une histoires, feuilletons sonores créés sur mesure qui se sont émancipés de la production radiophonique. Nouvelles écritures, nouveaux récits, nouveaux modes d'écoute et de financement. On en parle avec deux journalistes talentueuses, 25 ans après l'explosion d'une bombe artisanale à portée sur Garonne, elles ont décidé de rouvrir le dossier. D'où cette trépidante contre-enquête intitulée 1000 degrés, remarquablement construite et comme on dit dans notre jargon, joliment mis en onde.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et elles sont toutes les deux au micro de l'Instant M, Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Soyez les bienvenues. Un prologue, deux épisodes déjà disponibles. À la fin, il n'y en aura pas plus qu'un. À la fin, il n'y en aura 10. Voilà. La série s'appelle 1000 degrés, série à suspense. Je vous dis, on devient vite accro. Je vous présente rapidement toutes les deux. Émilie Denêtre, 7 ans de rédaction à Europe 1, c'est ça?
Exactement.
Voilà, notamment au service police-justice.
Au service reportage, mais je prêtais la main au service police-justice. Ouais.
C'est ça, donc voilà. Et Adèle Imbert qui est à vos côtés aux États-Unis. Vous avez travaillé avec de grands noms de la radio publique américaine, comme Sarah Koenig. Je le dis parce qu'il y en a à qui ça colle carrément des frissons d'entendre une des stars de This American Life. Vous allez nous expliquer. Vous avez aussi pratiqué l'investigation. Vous avez passé des mois ici à Radio France pour exhumer, entre autres, l'affaire des Panama Papers. Alors, chers amis, tous les jours, cette semaine, l'Instant M et le Centre National de la Cinématographie vous présentent de jeunes créateurs du web, nés sur YouTube et autres réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on leur accorde tous les matins un petit portrait. De vous, on va parler dans un instant, de l'ami Bruno Donnet aussi, parce que tous ces jeunes créateurs sont en ce moment en résidence au Festival de Cannes pour créer des ponts avec le cinéma.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Moi, les moteurs !
Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ?
Et vous ?
Je suis Julien Pestel, je suis comédien et auteur pour la télévision et le cinéma.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Cinéma ! Cinéma !
J'ai commencé en arrivant à Paris en 2010, en rencontrant notamment le duo humoristique du Palma Show, composé de Grégoire Ludig et David Marsay.
Alors les gars, vous êtes là, les femmes mortelles, la soirée du Nouvel An.
Attends, c'est trop énorme ! Grave, on va prendre trop cher !
Et à côté de ça, je tourne pour toutes sortes de programmes pour Internet, notamment avec les collectifs Studio Bagel, Golden Moustache, des formats digitaux pour France Télévisions. Pour la télévision aussi, j'ai travaillé souvent avec Canal+.
Ah ouais, je crois qu'il y a un petit problème.
Ok Fredo, on va jouer à un jeu.
Oui.
Si tu fermes ta gueule pendant les 5 prochaines minutes, je t'emmène manger où tu veux.
À l'Hippo !
Ok, on ira à l'Hippo, promis.
Je suis toujours été très comédie française, moi, à l'ancienne. Les Louis de Funès, les Belmondo, Pierre Richard, etc. J'ai été élevé à ça, j'étais nourri à ça.
Abonne-toi ! Abonne-toi !
Je tourne, je produis des sketchs et des courts-métrages pour YouTube, sur une chaîne YouTube qui porte très modestement mon nom, Julien Pestel, et sur laquelle je propose depuis 3 ans maintenant des courts-métrages originaux et des sketchs. On a fait un sketch qui est muet, en noir et blanc, uniquement avec des gags visuels. Un monsieur qui poursuit un moustique qui lui est en dessin animé. Après, il y a un sketch qui s'appelle L'Entretien sur un mec qui a une maladie, c'est-à-dire qu'il pète à chaque fois qu'il parle. Bon, je vous le ferai pas ici, mais vous voyez un petit peu ce que ça peut donner.
Mickaël, tu le veux vraiment, ce travail ?
J'en serais honoré, oui.
Allez, banco !
Ok, c'est bon pour nous, c'est bon.
Et à côté, il y a des courts-métrages où on peut prendre 4 ou 5 jours pour le tournage. Ce qui est long pour Internet, parce que j'ai envie de jouer des rôles parfois, et quand on me les propose pas, je les écris, je me les écris moi-même.
Au secours ! Mathias !
Putain, c'est pas possible, on peut pas passer tranquille, là !
Qu'est-ce que t'as fait ?
Mais j'ai rien fait, moi, c'est cette conne, elle est tombée toute seule !
Attends, mais elle est...
Je crois, oui, morte !
Mais alors ? Qu'est-ce qui se passe ?
Chut ! Ta gueule !
Il y a eu une époque où c'était à la mode des formats ultra courts. Je pense, dans la suite de Bref, en fait, on s'est dit, ah ouais, en fait, ce qui marche, c'est les trucs ultra courts qui font 1 minute 30, 1 minute, moins d'une minute, 30 secondes. On s'est habitué à ça, alors que c'est pas du tout une norme. Si on propose des contenus sur YouTube qui font une heure et demie, les gens regardent si c'est de qualité.
Coupez !
Voilà, portrait signé Anne-Cécile Perrin et François Audouin. J'en profite pour remercier Redouane Tella qui a préparé l'émission toute cette semaine et Grégory Wallon qui est à la technique ce matin. L'ami du vendredi matin, vous le connaissez, c'est Bruno Donnet. Tout va bien, Bruno ?
Bonjour Sonia, ça va ?
Et sa semaine médiatique. Cette semaine, Bruno, vous vous êtes intéressé à l'étonnant itinéraire médiatique d'une petite phrase prononcée par le ministre des Affaires étrangères.
Oui Sonia, si vous aimez les vérifications et les mises en abîme, aujourd'hui vous allez être servi. Je vous raconte, tout a commencé samedi matin, invité à réagir à la libération des otages français enlevés au Bénin, mais aussi et surtout à la mort des deux militaires envoyés pour les libérer, Jean-Yves Le Drian a déclaré ceci sur l'antenne d'Europe 1.
La zone où étaient nos deux compatriotes était considérée depuis déjà pas mal de temps comme une zone rouge, c'est-à-dire une zone où il ne faut pas aller.
Il les a accusés de s'être trouvés dans une zone formellement interdite avant d'ajouter ça.
La plus grande précaution doit être prise dans ces régions pour éviter que de tels enlèvements n'aient lieu et pour éviter des sacrifices de nos soldats.
Éviter des sacrifices de nos soldats. En d'autres termes, en prononçant cette phrase, Jean-Yves Le Drian a choisi de faire porter aux otages la lourde responsabilité de la mort des deux nageurs de combat, tentant ainsi d'échapper à la polémique qui enflait sur la responsabilité du gouvernement qui avait ordonné l'opération. Une manœuvre de communication qui a commencé par parfaitement fonctionner, puisque quelques heures plus tard, le 13h de TF1 reprenait, sans la contester, la déclaration du ministre.
Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, disait regretter que des touristes se soient rendus dans une zone présentant des risques majeurs.
Seulement voilà, dès le lendemain, le site de Marianne se lançait dans une entreprise de vérification des propos du ministre et concluait qu'il s'agissait d'un gros bobard, d'une manip, puisque la zone soi-disant rouge ne l'était pas. Allons bon, la vérification était immédiatement reprise par le 20h de France 2 qui, dimanche soir, nous expliquait que
le jour de leur enlèvement, le mercredi 1er mai, la zone dans laquelle se trouvait leur hôtel était simplement en zone orange, c'est-à-dire déconseillée aux touristes.
Information confirmée par France 3 qui précisait
« Ce n'est qu'après l'enlèvement que la zone passe en rouge, soit formellement déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. »
Avant que l'émission C'est politique de France 5 ne conclue
« Les touristes n'ont pas pu prendre en compte cette consigne puisqu'ils avaient déjà quitté la France. Et à cette époque, au moment donc de leur départ, la zone n'était pas du tout signalée. »
L'histoire déjà pas mal alambiquée de la vérification aurait pu s'arrêter là, mais lundi, patatras, rebondissement. L'excellent site Check News, mis en ligne par Libération, décidait de vérifier la vérification, accrochez-vous bien, et concluait que le passage de la zone de la couleur orange à la couleur rouge datait en vérité du mois de décembre, avant de préciser toutefois que l'hôtel dans lequel devaient séjourner les otages se trouvait bien en zone orange, mais que la voiture qui les y conduisait avait été retrouvée en zone rouge. Vous avez suivi ?
Oui.
Ouf. Voilà. Alors, à un moment où le fact-checking est devenu un genre journalistique à part entière, je dis bravo aux vérificateurs, mais je voudrais profiter de cette histoire haute en couleur pour dire aussi haro sur la mise en abîme, stop sur l'effet vache qui rit, car dans cette histoire, le temps passé à vérifier les vérifications des vérificateurs de fact-checkers aura été un magnifique écran de fumée et autant de temps non utilisé pour se demander si, lorsque deux soldats français sont tués, il est absolument urgent et véritablement décent de la part d'un ministre de faire porter le képi à des touristes qui, j'ai bien vérifié Sonia, n'ont strictement aucun pouvoir de donner des ordres aux militaires.
Merci Bruno Donnet, à réécouter et à vérifier sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
16 décembre 1994 a porté sur Garonne une bombe artisanale de victimes.
Fil électrique, 35 vis acier 5 mm de diamètre, 2 conducteurs électriques, 5 bouteilles de verre, clous, pince à linge, mousse polyuréthane, tube en acier, 4 litres d'essence, une batterie 12 volts, poudre à pétard.
Comme tous les matins à 7h30, le directeur et son épouse viennent prendre leur travail. Devant la porte, un colis en bois. C'est en ouvrant la caisse à l'intérieur que se produit le drame, une explosion d'une rare violence.
Extrait des tout premiers épisodes d'un feuilleton sonore, on appelle ça un podcast, qui en comptera 10 au final, intitulé 1000 degrés et qu'on vous recommande. C'est un cauchemar, vous pouvez peut-être l'expliquer, les époux Hernandez sont hospitalisés dans un état d'une extrême gravité. Adèle Imbert ou Émilie Denêtre?
Oui, ils sont effectivement hospitalisés sur le chemin de l'ambulance. Mmh. Ils vont désigner d'emblée un homme, ils vont désigner Daniel Massé, et cet homme-là, c'est lui qui sera condamné 15 ans plus tard à 25 ans de réclusion criminelle.
Qui est-il ?
C'est leur ancien ami, ancien collègue, l'association n'a pas pu se faire, ils étaient en litige commercial, on est sur des petites sommes, on est sur 4 500 euros, et c'est le coupable désigné, ou que tout désigne, au choix, hein, c'est le podcast qui va nous aider un petit peu à y voir clair, et lui, il est sorti de prison aujourd'hui, il clame son innocence, il ne doit plus rien à la société, hein, mais il continue de clamer son innocence,
alors,
et ça n'a pas bougé.
En attendant, monsieur Hernandez, Adèle Imbert, va témoigner. Dans votre enquête, on va l'entendre, on va entendre sa voix. Ce fut assez long de le convaincre et assez difficile. Comment vous vous y êtes pris, puisque vous mettez tout cela en scène, hein, dans les épisodes? Comment on se présente quand on n'est ni faites entrer l'accusé, vous comprenez, ni Le Point, ni Marianne, ni Le Figaro, ni Libération?
Je crois que c'est un vrai choix dans le podcast d'utiliser justement le « je » et le « nous » pour justement être tout à fait transparente à l'égard de, envers nos auditeurs. Mais cette transparence-là, c'est aussi une transparence qu'on a eue envers nos sources, à toutes les étapes du processus, de l'enquête. Et y a eu un gros travail d'explication, tout simplement, de notre démarche, de pourquoi on avait envie de reprendre cette affaire, de s'y intéresser, pourquoi ça allait être, selon nous, intéressant pour le grand public, parce que cette affaire-là, qui est très humaine, elle dit des choses, des failles systémiques de la justice pénale aujourd'hui en France. Et voilà, ça a été un long processus où il a fallu expliquer à la victime qui, elle, ne comprenait pas l'intérêt de notre travail journalistique, puisque elle est victime, et ça, on ne lui enlèvera jamais. Elle est victime physique. Pour elle, le coupable a été condamné et elle ne voyait absolument pas l'intérêt de notre travail.
Alors justement, Émilie Denêtre, vous allez rouvrir un dossier d'instruction. Il faut préciser comment vous mettez en scène tout cela. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous appuyez aussi sur les outils numériques. Vous avez créé une plateforme qui s'appelle Insider, une plateforme de podcast dans laquelle, justement, vous allez proposer différentes contre-enquêtes. 1000 degrés, c'est la première. Et vous vous appuyez également sur des éléments visuels. Vous avez un complément d'enquête à l'écran. Vous publiez des pièces versées au dossier.
Oui, c'est vrai, ça faisait partie de l'histoire qu'on voulait raconter.
Il y a PV, des photos, des lettres recommandées.
On en parle dans tout le podcast, on les décrit. Nous, on s'est retrouvés avec ce dossier d'instruction où tout est écrit à la machine, où les gens laissent leur numéro de téléphone fixe. Et ça nous a semblé, on était dans cette matière-là et on s'est dit, il faut aussi que les gens la voient. Bien sûr, on l'a décrit, c'est notre travail, mais on avait aussi envie que les gens voient cette matière. Et puis, ces compléments d'enquête, c'est aussi important pour nous, parce que c'est une enquête qui est très technique, très longue instruction, 2500 pièces de dossier, et on avait besoin à certains moments de préciser certains éléments, peut-être d'aller plus loin, ce qui n'est pas toujours possible dans le détail dans un podcast de narration, et ça nous permettait d'avoir aussi cet espace pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, d'aller dans cette précision.
Alors on l'a compris, hein, aujourd'hui il y a deux familles, il y a deux camps, il y a les Hernandez qui sont convaincus toujours aujourd'hui de la culpabilité de Daniel Massé qui a été jugé et condamné, et puis il y a les Massé qui sont convaincus d'une erreur judiciaire. Vous retravaillez, vous retrouvez les témoins de l'époque. Justement, quand on lance Insider et qu'on choisit son premier sujet de contre-enquête, comment sélectionne-t-on l'affaire? Qu'est-ce qui fait qu'une affaire est meilleure qu'une autre? Est-ce qu'il faut qu'elle ait été médiatisée? Mais pas trop. Est-ce qu'il faut que vous soyez seul sur ce terrain de contre-enquête? Est-ce qu'il faut que vous ne soyez pas en concurrence avec d'autres journalistes qui auraient eu envie de fouiller également, Émilie Denêtre?
Alors, je ne sais pas si on s'est posé toutes ces questions en amont. Je dirais plutôt que cette affaire, elle nous a attrapés, nous. En fait, on a lu l'histoire de Daniel Massé dans un journal. Il clamait son innocence et c'était tout de suite étonnant. Ça nous a interpellés comme journalistes. On est 25 ans plus tard, il est sorti de prison, il continue de clamer son innocence. Visiblement, il y a quelque chose qui est mal refermé puisque personne n'est à sa place. Les victimes ne sont pas totalement installées comme victimes. La personne qui a été accusée et condamnée estime qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Et puis après, on a un colis piégé. C'est quand même très étrange, le colis piégé. C'est très rare comme mode opératoire. Ça implique de la préméditation. Donc, voilà, ça rajoute une curiosité, une volonté de s'intéresser à ce sujet. Puis Daniel Massé, c'est aussi le premier Français qui a été acquitté par une cour d'assises avant d'être rejugé. Parce qu'une disposition est introduite dans le code pénal et ça, il a pu être rejugé. Il y a eu un appel du parquet. C'est la première fois que ça arrive en France. C'est-à-dire qu'à quelques mois près, il était acquitté et il était définitivement innocenté de cette affaire.
Alors parlons de votre écriture à toutes les deux. C'est extrêmement fluide, c'est très bien construit. Le fait d'être deux vous permet de mettre en scène vos dialogues à toutes les deux, vous permet de décrire les lieux. Donc vous apportez des éléments quasi visuels dans votre voix. Vous décrivez les éléments à disposition. Et puis aussi, Vous échangez toutes les deux sur l'avancée de l'enquête et sur ses freins, Adèle Humbert, le tout avec moult silence. Il y a des silences dans ce podcast. Alors dites-nous, les mots et les silences.
Les mots et les silences. On a eu plusieurs moyens pour s'enregistrer. En fait, on a décidé aussi, ça faisait complètement partie du processus qui a accompagné notre écriture et la construction de ce podcast. Donc, on a eu effectivement des moments où on laissait l'enregistreur posé sur la table pendant qu'on était en train de travailler. Et donc, les moments où, que vous entendez
c'est
dans le podcast,
c'est des mois de travail, hein. Il faut le dire.
Ah oui. C'est 9 mois de travail. Ouais, quasiment à plein temps. Ouais. Ouais. 9 mois d'enquête. Et donc, on a ces moments où voilà, on laisse l'enregistreur posé sur la table. Alors, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais en tout cas, les moments où il se passe quelque chose, ils sont vrais. Rien n'est mis en scène. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie d'intégrer parce que ça fait partie de notre travail d'enquête, encore une fois, qu'on avait envie de partager avec les auditeurs aussi. Et ça participe aussi à cette volonté de montrer que l'enquête, c'est pas quelque chose qui est froid, c'est quelque chose qui reste très humain, avec nos doutes aussi, nos questionnements, nos remises en question permanentes aussi sur cette affaire avec Émilie.
Alors, de vous deux, c'est vous qui avez travaillé aux États-Unis ces dernières années, à Chicago, à New York, quand j'ai cité Sarah Koenig, j'ai cité American Life, j'ai cité The Serial, qui est le podcast de contre-enquête le plus téléchargé au monde, si ce n'est pas le podcast le plus téléchargé au monde tout court. Ils ont l'avantage d'être en anglais, cela, mais c'est fort bien fait. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux, justement, que vous avez pu injecter dans 1000 degrés?
Les États-Unis, c'était, pour moi, mon expérience aux États-Unis, c'était vraiment une source d'inspiration dont je me suis complètement nourrie, surtout en termes d'écriture sonore. Et j'ai appris, donc, j'ai terminé mes études à Columbia University, où j'ai vraiment appris les techniques narratives associées à l'audio, au son. Donc avec Sarah Koenig, avec Sarah Stillman, qui est journaliste au New Yorker. Et y a cette écriture qui est beaucoup plus, beaucoup plus narrative.
Ouais.
Et qui est aussi liée au journalisme à l'américaine. Et
c'est
moi,
ça.
C'est quelque chose qui m'a...
C'est toute une histoire aux États-Unis.
C'est exactement ça. Le mot, en fait, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais envoyée dans le New Jersey pour faire mon premier reportage. C'est une anecdote qui peut paraître idiote, mais je ne savais pas comment on disait le mot reportage en anglais.
A story.
Et ça veut tout dire.
C'est toute une histoire.
Ça veut tout dire. Et c'est ça, en fait. C'est le storytelling dont je me suis imprégnée. Mais en rentrant en France, avec Émilie, on a un peu pioché tout ce qui nous intéressait et tout ce qu'on trouvait le plus pertinent de ces deux cultures et de ces codes qui sont différents, les a associés.
Un dernier mot quand même,
podcast.
Parce que 9 mois d'enquête, il faut les financer. Alors ça aussi, peut-être que vous l'avez appris des Américains qui ne se bougent pas le nez ni avec les sponsors, ni avec la publicité. Vous avez un sponsor en début d'épisode. Tout ça est tout à fait transparent et assumé, Émilie Denêtre.
Ah, complètement, en fait. De toute façon, l'information, ça se paye par un abonnement, ça se paye par une contribution ou ça se paye par de la publicité. Et c'est une évidence, l'information ne peut pas être gratuite. Donc oui, il y a un sponsor et nous, on a eu la chance d'être dans une relation très bienveillante avec notre sponsor Audible, en fait, qui a cru en notre projet parce qu'on démarrait de nulle part et ils ont eu confiance en nous. Donc ils nous ont permis de travailler et on est resté maître du début à la fin de l'éditorial et on le dit très clairement et ça sera comme ça aussi pour les prochaines enquêtes.
Alors je vous remercie beaucoup toutes les deux. Je rappelle donc que ce feuilleton sonore bourré de suspense, je vous le dis, s'appelle 1000 degrés. Le plus simple sur l'application de vos téléphones, en fait, c'est de cliquer dans l'onglet podcast et puis comme ça vous pouvez vous taper 1000 degrés et vous le trouvez tout de suite. Sinon vous allez sur le site Insider, Insider-podcast. filespodcast.com, c'est le site des filles, et elles proposeront des podcasts au fur et à mesure. Sinon, vous allez sans abonnement sur Spotify, sur Deezer, et hop, vous pouvez le télécharger. Merci à toutes les deux. Oui, c'est gratuit. C'est pour ça que vous avez eu besoin d'un sponsor. Bonjour Ali Réveillé.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, on parle d'intelligence
oui,
ce matin,
qu'est-ce
donc
que
on vient vous
l'intelligence
fasse.
Qu'est-ce que l'intelligence? C'est la question que nous posons à Olivier Houdet, professeur en psychologie du développement, et à Sébastien Boller, le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho.
À tout à l'heure.